18h. RTN Info. Léonard Reichen.
Bonsoir. Le contournement de la Chaux-de-Fonds par la H18 pourra se faire. Les Neuchâtelois ont accepté à une écrasante majorité de plus de 77% le crédit de 186 millions de francs qui lui était soumis. Sur le plan fédéral, le peuple largement dit oui à la loi Covid et à l'initiative sur les soins infirmiers. C'est en revanche non au tirage au sort des juges fédéraux. En sport, le HC La Chaux-de-Fonds est sur le point de mettre fin à sa série de défaites. Les Abeilles sont en train de mener face à Winterthur. Marcel Neuenschwander nous en dira plus dans le point sport. La tendance aux chutes de neige se poursuivra ce soir et cette nuit, puis demain matin. Une accalmie est prévue dès la mi-journée, plus marquée en plaine. C'est un véritable plébiscite pour le contournement de la Chaux-de-Fonds par la H18. Les Neuchâtelois ont accepté à plus de 77% le crédit de 186 millions de francs qui leur était soumis, dont 73 millions à la charge du canton. Toutes les communes ont accepté cet objet, certaines à plus de 90%. À la Chaux-de-Fonds, au cœur du projet, le oui se monte à près de 82%. Le taux de participation est en revanche l'un des plus bas du canton, avec 45,3% contre 47,9% au niveau cantonal. Sur le plan fédéral, les Neuchâtelois ont voté comme le reste de la Suisse. Ils ont accepté la loi Covid et l'initiative sur les soins infirmiers. C'est non, en revanche, à l'initiative sur la justice. Le crédit de la H18 avait été accepté par le Grand Conseil, mais il a été combattu par référendum, Sarah Massy.
Un référendum lancé par les Jeunes Verts, Solidarité, la Grève du Climat et Greenpeace. Pour en parler, nous recevons dans nos studios Chloé Dutoit, coprésidente des Jeunes Verts. Bonjour.
Bonjour.
Et Fabio Bongiovanni, président du PLR Neuchâtelois et membre du comité unique en faveur du projet. Un comité qui réunit toutes les autres formations politiques, à l'exception des Verts qui laissaient la liberté de vote. Fabio Bongiovanni, bonjour.
Bonjour.
Avant de vous faire réagir, on écoute la réaction du conseiller d'État en charge du développement territorial, satisfait que la population neuchâteloise partage la vision du gouvernement, Laurent Favre.
La population neuchâteloise dans toutes les communes a compris cette vision, soutient cette vision de transformation, de nouveau dynamisme, de redéploiement d'une région, les montagnes neuchâteloises qui ont un énorme potentiel sous-exploité aujourd'hui.
Moi, j'ai le sentiment aujourd'hui qu'on entend, on lit sur la carte un canton, un espace. On peut être au Londron, à la Côte-aux-Fées, au Cernieu-Péquignot, à la Chaux-de-Fonds, à Neuchâtel. C'est oui au projet que vous avez porté.
Oui, vous faites bien de le rappeler. Un canton, un espace, on y est. C'est la démonstration aujourd'hui. C'est ce qu'on a construit avec la stratégie mobilité 2030. On avait là un projet majeur, le chêne au Mancon dans les montagnes neuchâteloises. Et la population neuchâteloise a compris, dans l'esprit effectivement d'un canton, un espace, que ce chaînon devait être créé pour que la chaîne cantonale soit forte.
Fabio Bongiovanni, le oui est sans appel hein, aujourd'hui finalement. Ce référendum, c'était peut-être une bonne chose. La population a pu asseoir avec fermeté ce projet.
Tout à fait. Aujourd'hui, on a une décision qui est extrêmement claire, qui permet d'aller de l'avant de manière forte. On a déjà eu un soutien très important à Mobilité 2030. Aujourd'hui, c'est une des étapes qui constitue Mobilité 2030. Ça nous permet de continuer de manière forte sur cette voie.
Chloé Dutoit, près de 400 citoyens sur 5 qui approuvent ce contournement. Vous attendiez un résultat aussi parlant, c'est quand même une sacrée claque.
Alors c'est effectivement une sacrée claque dans un certain sens, mais en même temps, vu les faibles moyens qu'on avait face aux opposants, qui avaient une force politique et des moyens financiers extrêmement énormes, c'est finalement un résultat qui nous satisfait. D'autant plus qu'on voit qu'à la Chaux-de-Fonds, il n'y a pas eu cette mobilisation si attendue. Donc pour nous, c'est certes une très mauvaise nouvelle pour les futures générations et pour la crise climatique, mais... On est néanmoins satisfait de ce qu'on a pu faire.
Il y a eu au cœur de cette campagne le report de trafic sur d'autres rues. Hein, c'était parmi vos arguments. Le conseiller communal en charge de l'urbanisme à la Chaux-de-Fonds l'assure. Les garanties données quant au report de trafic seront tenues afin de garantir une qualité de vie au centre-ville. On écoute Théo Gnaëlli.
Bien sûr qu'elles vont pouvoir être tenues parce que c'était des garanties raisonnables, construites avant d'être formulées, ce n'est pas des garanties de campagne. Donc il s'agira de mettre en place un monitorage des axes concernés, c'est-à-dire essentiellement la rue de la Charrière et la rue Numadro, mais j'aimerais quand même rappeler qu'à terme, avec encore la N20, on va retrancher du trafic interne à la ville de La Chaux-de-Fonds 18 000 véhicules jour, dont tout le trafic de transit, poids lourd. Cela dit, ce monitorage devra vérifier que les normes en termes de qualité de l'air, en termes de bruit, soient respectées. Et le cas échéant, nous devrons prendre un certain nombre de mesures.
Chloé Dutoit, on vient d'entendre Théo Gnaili. Il fait des promesses, là. Vous les prenez vraiment pour acquis?
Alors depuis le début, on a été extrêmement critiques vis-à-vis des mesures de compensation qui étaient promises. Vu le résultat, on fera extrêmement attention à ce qu'elles soient effectivement mises en œuvre. Mais pour nous, maintenant, ce qui doit se faire dans le canton, c'est vraiment une question de réduction du trafic. Pour nous, la priorité, elle doit être là. Et on va vraiment faire en sorte, par un biais populaire, par un biais politique aussi, de pouvoir mettre en œuvre une politique de réduction du trafic au sein du canton.
Vous pensez à quelque chose de particulier ?
Ben, typiquement le plan climat qu'on va bientôt devoir traiter au Grand Conseil, où les moyens financiers mis sont extrêmement moindres par rapport à d'autres cantons. Le canton de Genève prévoit une réduction du trafic de 40% d'ici à 2030, et dans le canton de Neuchâtel, vu les chiffres qui étaient évoqués pendant la campagne, on tape sur une augmentation naturelle du trafic de 1,5% par année. Donc là, on voit qu'on est en opposition totale finalement avec la mobilité qu'on doit avoir à l'avenir.
On entend, Fabio Bongiovanni, que la notion de qualité de vie a été au centre des arguments des partisans du contournement. Il va falloir maintenant répondre aux attentes de la population, finalement, et développer aussi la mobilité douce à La Chaux-de-Fonds.
Oui, bien sûr. Alors, c'est aussi le rôle de la ville de La Chaux-de-Fonds de mettre en place les différentes mesures qu'elle a décidé de mettre en avant. Pour ce qui est du canton, on a Mobilité 2030 qui, je le rappelle, est établie sur trois piliers, le rail, le route, mais aussi la mobilité douce. Et donc, ça fait partie des engagements qui ont été pris par le Conseil d'État et qui a été soutenu par la population.
Fabio Bongiovanni, ce contournement, on l'a dit, hein, c'est l'une des pièces manquantes de la mobilité cantonale. La population à une vision cantonale, elle a tiré à la même corde. Est-ce que ça veut peut-être présager la fin de ce lancinant conflit au bas, une unité du canton ?
C'est très réjouissant, la manière dont toutes les communes du canton ont soutenu de manière très importante ce contournement. Parce que, au-delà d'une problématique chaudefonnière, il s'agissait d'une vraie question d'attractivité et de développement pour la ville de La Chaux-de-Fonds. Tout le monde en était conscient et donc a mis un oui dans l'urne de manière massive.
Il y avait la question de l'urgence climatique aussi, c'était au cœur de vos arguments au niveau du comité référendaire. Est-ce qu'à votre avis, quand même, la population, du coup, elle n'a toujours pas pris conscience réellement, au vu de ce vote, de cette urgence climatique ?
Je pense que, outre l'urgence climatique, ici, ce qui a fait pencher la balance au sein de la population, c'est le fait qu'elle ne voulait pas prendre position sur des moyens financiers qui étaient mis pour La Chaux-de-Fonds. Ce clivage au bas, il existe malheureusement toujours d'une certaine manière. Et puis, on l'a vu au moment de la récolte de signatures, que les personnes de Neuchâtel ne voulaient pas en fait prendre position vraiment sur ce contournement. Donc, je pense qu'il y avait plus cette question de territorialité que d'urgence climatique, malheureusement.
Mais la population a pris position dans certaines communes qui n'étaient pas à La Chaux-de-Fonds. Mm-hmm. Des 90%, enfin, on a des taux de participation qui sont extrêmes, donc je ne vous suis pas très bien.
Alors, effectivement, il y a eu un plébiscite pour cette H18, mais à mon avis, en tout cas, ce qu'on a entendu, nous, pendant la campagne, ce n'est pas le fait que la population ne souhaitait ne reconnaissait pas l'urgence climatique, c'était plutôt le fait qu'elle voulait donner les moyens à La Chaux-de-Fonds d'avoir une nouvelle route et lui donner les moyens d'avoir une meilleure attractivité. Mais pour nous, cette H18 n'était pas finalement la solution pour désengorger le trafic à La Chaux-de-Fonds.
Sur le plan fédéral, on l'a dit, les Neuchâtelois ont voté comme le reste de la Suisse. Ils ont accepté la loi Covid, l'initiative sur les soins infirmiers à près de 64%, et l'initiative sur la justice a été refusée par plus de 68%. L'analyse de notre correspondant à Berne, Serge Jubin.
À l'exception de rares taches discordantes, appenzelloises et schwyzoises, les Suisses ont validé la loi Covid avec une belle unité territoriale. 62% de oui, c'est 1,8 point de plus qu'il y a 5 mois. Ces mêmes Suisses continuent d'applaudir le personnel infirmier en lui promettant de meilleures conditions de travail, à raison de 61% avec l'appui de 22,5 cantons. Et ils ont donc repoussé à plus de 2 contre 1 l'iconoclaste initiative pour désigner les juges fédéraux par tirage au sort. Les résultats nets et quasi unanimes cachent pourtant une Suisse divisée, sous très haute tension. Il suffisait de voir l'impressionnant dispositif anti-émeute autour du palais fédéral à Berne ce dimanche, à se demander si la proportionnalité, pourtant propre à notre système démocratique, a encore un sens. L'enseignement de ce dimanche, la majorité silencieuse des Helvètes, vaccinés, certes résignés et fatigués, qui craint un hiver difficile, soutient les mesures de lutte contre le virus et appuie les autorités. Elle s'est davantage mobilisée que celle des opposants, pourtant omniprésents et vociférateurs dans l'espace public. C'est donc une Suisse raisonnable qui l'a emportée. Pas sûr toutefois que le vote, pourtant net, cicatrise la plaie sociale et politique béante, ouverte par la pandémie et les moyens d'en sortir. Il faut aussi mettre en exergue le succès retentissant de l'initiative pour des soins infirmiers forts. Succès attendu, certes, mais inédit, qui force le respect dans ce système qui habituellement asphyxie les initiatives, qui plus est lorsqu'elles sont à ce point sectorielles. Les Suisses disent ainsi tenir à deux choses, à un système de santé performant et humain, ainsi qu'à des conditions de travail correctes. Le message dépasse la situation spécifique des infirmières.
Les précisions de notre correspondant à Berne, Serge Jubin. Chloé Dutoit, Fabio Bongiovanni, vous souteniez tous les deux la loi Covid. La campagne a été rude, Chloé Dutoit. On a senti une population très polarisée, avec des menaces de mort envers certains politiciens. Est-ce que le débat politique, on n'a pas pris un coup ?
Alors effectivement, pour moi la problématique de fond c'était surtout celle de l'intox. On a vu vraiment dans le camp des opposants à la loi Covid extrêmement de fausses informations circuler et finalement c'est ce qui a fait à mon avis du mal à cette campagne et pour arriver au bout de cette crise, il faut vraiment une dose supplémentaire de solidarité avant tout et arrêter de diviser la société avec ce sujet.
Et pour les adversaires hein, résolus de la loi Covid, hein, les amis de la Constitution, bien, ils estiment que le certificat Covid constitue une obligation vaccinale déguisée. Pour Michel Caillé, leur porte-parole en Suisse romande, le mouvement n'a toutefois pas démérité.
Ça, de toute façon, nous n'avons pas démérité. Et puis, nous avons toujours 40% de la population qui n'est pas convaincue du tout par la politique du Conseil fédéral. Les Suisses ont été très mal informés. La seule information qu'ils ont pu avoir, elle venait de notre part, parce que le Conseil fédéral, par rapport au livret de votation, à aucun moment, on ne parle des enjeux de cette votation, qui sont le certificat Covid, qui représente une obligation vaccinale déguisée. En termes de processus démocratique, on ne peut que l'accepter. Ça a été mené de manière correcte, il y a un référendum, on est obligé d'accepter le résultat du référendum. Il n'en demeure pas moins que la loi Covid est toujours anticonstitutionnelle, qu'elle viole nombre de droits fondamentaux.
Fabio Bongiovanni, qu'est-ce que vous avez envie de répondre justement à ce 40% de la population qui a l'impression maintenant d'être privée de ses droits fondamentaux ?
J'ai envie de répondre qu'on est, je pense, le seul pays au monde dans lequel on peut justement voter sur les mesures et les restrictions ou les aides que l'on octroie à la population ou aux différentes catégories de l'économie qui sont concernées. Donc, on est informé. Alors on nous dira que c'est pas vrai, que de toute façon tout est un complot et que les Illuminati sont à peu près partout. Bon, ok, mais cela étant, on est le seul pays dans lequel on peut voter sur ce genre de choses. On le fait. Maintenant, la population a tranché et ce n'est pas ceux qui ont hurlé le plus fort qui ont eu raison, mais bel et bien ceux raisonnés qui ont décidé d'aller de l'avant avec les mesures qui sont proposées par nos autorités fédérales.
On votait sur deux autres objets au niveau fédéral. L'adoption de l'initiative pour des soins infirmiers forts constitue un événement inédit en Suisse. Ce n'est que la 24e initiative qui est acceptée par le peuple et les cantons et c'est le premier texte d'une organisation professionnelle qui passe la rampe. Chloé Dutoit, vous souteniez le texte également. On peut dire réellement que c'est une journée historique.
Alors absolument, c'est un résultat qui est absolument incroyable et je pense qu'il démontre vraiment de la reconnaissance de la population envers le personnel soignant qui a été mis à extrêmement rude épreuve pendant la crise sanitaire et même avant. Et puis, il permet aussi de vraiment mettre en avant ce slogan de « applaudir ne suffit pas » qui prend tout son sens aujourd'hui. Et je remercie vraiment le personnel soignant aussi de son implication dans la campagne.
Fabio Bongiovanni, en revanche, vous étiez contre ce texte. Comment vous analysez ce résultat? La population a eu envie aujourd'hui de soutenir le personnel de la santé en soutien fort.
Contre ce texte parce que pour le contre-projet. Il y a un contre-projet qui a été élaboré par les chambres fédérales et qui amenait aussi un certain nombre d'améliorations des conditions du personnel soignant. Aujourd'hui, ben, on constate que la population a eu une oreille très attentive à l'égard du personnel soignant et des initiants. Ce que je regrette aujourd'hui, c'est que par cette initiative, la Confédération va fixer un certain nombre de conditions de travail au personnel soignant et ne plus laisser aux cantons et aux hôpitaux directement concernés le choix d'avoir une politique différente, notamment sur le plan des salaires. Alors on se retrouvera dans une situation qui est identique entre la ville de Zurich et la ville de La Chaux-de-Fonds, ce qui n'est peut-être pas le cas dans la réalité du terrain.
Et puis, il y avait l'initiative sur les juges fédéraux qui a été balayée par le peuple, celle-ci et tous les cantons. Vous étiez d'ailleurs tous les deux opposés. On écoute Adrian Gasser, le père de l'initiative.
Je suis tout à fait satisfait du résultat parce que nous avons prévu que ce sera la première étape. Vu que pendant 100 ans, il n'y avait rien du tout qui s'est passé sur le niveau d'information du peuple, que personne ne savait ce que c'est la séparation des pouvoirs, personne n'a su que les juges payent pour leur travail qu'ils font, c'est-à-dire pour leur poste, et que les partis politiques vendent tout cela. Maintenant, et je suis tout à fait content de cela, nous allons lancer une deuxième étape. Et la deuxième étape consiste à de faire de nouveau l'initiative dans tout à fait les mêmes temps, les mêmes mots, pour que l'État ne puisse pas nous saboter d'une façon, disons, formelle. Et comme ça, c'est une bonne chose qui est arrivée pour la première étape.
Fabio Bongiovanni, on l'a entendu, hein, c'est qu'une première étape. Comment vous analysez ces propos?
Dommage que M. Gasser soit mauvais perdant. Puisque très concrètement, la population, là aussi, de manière assez claire, a dit qu'elle ne souhaitait pas la solution qui était proposée par M. Gasser. Peut-être qu'il y a des éléments à améliorer dans le fonctionnement institutionnel, constitutionnel que l'on a actuellement. Là, voilà, on a une réaction d'un mauvais perdant qui dit oh, « on a perdu cette fois, mais on va quand même revenir avec le même sujet, les mêmes questions, et puis on va reposer la question à la population. » Dommage.
Chloé Dutoit, les Verts, pour vous, vous étiez contre cette initiative, mais tout n'était pas acheté. Hein.
Alors, tout n'était peut-être pas acheté, mais en l'occurrence, la solution qui était proposée était absolument inadéquate avec cette élection quasiment à vie et puis une élection par un comité dit indépendant, mais dont la composition n'était pas extrêmement claire. Alors, certes, la Suisse a besoin d'une justice forte, indépendante et largement reconnue par la population. Mais pour cela, il y a à mon avis un travail à faire au niveau parlementaire. Donc l'hiver, ça fait déjà un moment qu'on œuvre en faveur d'amélioration de système avec une certaine dépolitisation et puis avec également un aménagement du temps de travail. Donc plusieurs choses qui pourront être amenées par les parlementaires au sein des autorités fédérales.
Fabio Bongiovanni, ces propositions pourraient vous séduire?
Alors le PLR a une proposition qu'il a déposée aux chambres fédérales. Malheureusement, elle a été rejetée en commission, qui proposait justement de retirer les financements de certains juges fédéraux aux partis par des cotisations obligatoires. Alors après, s'il y a des donations qui se font, là, c'est une toute autre question. Alors, en tout cas, le PLR avait une proposition. Elle n'a pas passé la rampe pour l'instant, mais en tout cas, je pense que tout le monde est prêt à y travailler.
Chloé Dutoit, Fabio Bongiovanni, merci d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite une toute bonne soirée.
Merci.
Merci.
Et on votait également ailleurs en Suisse romande. Genève pourra destituer un conseiller d'État. Le peuple a accepté par plus de 91% des voix d'introduire un mécanisme dans la Constitution. Et toujours dans le même canton, l'initiative sur la fin des rentes à vie pour le conseil d'État a aussi été acceptée. Des textes qui avaient été lancés dans le sillage de l'affaire Maudet. Cette loi fait suite à l'affaire Maudet et à la crise institutionnelle qu'elle avait provoquée pendant 12 ans. La droite conserve sa majorité au Conseil d'État fribourgeois. L'entente fribourgeoise conclue entre les trois partis bourgeois après le premier tour du 7 novembre a réussi à placer ses cinq candidats avec deux PLR, deux centristes et un UDC. Le centre perd son troisième siège dans l'aventure. La gauche n'a pas réussi à gagner un siège. Le PS cédant même son deuxième fauteuil aux Verts qui reviennent aussi aux affaires. Le candidat sortant, le PLR Didier Castella, a réalisé le meilleur score. Et puis le nord de la France en proie à des inondations. Les pompiers ont procédé aujourd'hui à des évacuations d'habitants de cette région placée en vigilance orange par Météo France. En début d'après-midi, 60 personnes ont été évacuées de 20 habitations dans la commune d'Arnequet et ont été regroupées dans une salle communale, ont indiqué les pompiers du Nord.
Sport.
Il est bientôt 18h20, largement l'heure de passer au sport avec vous, Margot De Agostini, bonsoir.
Bonsoir.
Et on va revenir tout d'abord sur cette large victoire du HC La Chaux-de-Fonds.
Oui, les Chaux-de-Fonniers viennent de battre Winterthur 6-1 en Swiss League de hockey sur glace. On vous retrouve en terre zurichoise, Marcel Neuenschwander.
Il n'y a pas eu de match aujourd'hui à la Thilbau Arena. Les dés étaient jetés après la première période. Déjà, le HCC menait 4-0 à la suite des réussites d'Andreas Döpfner, Mathias Tretnes, Daniel Karbis et Nils Seyes, son premier but de la saison. En ouvrant la marque après 1 minute 25, le HCC s'est immédiatement mis sur orbite, n'a pas douté, il a poursuivi sur sa lancée, étouffé son adversaire. La différence de rythme entre les deux équipes était manifeste, pour ne pas dire presque pathétique, en regard des Zurichois complètement dépassés. D'ailleurs, durant le tiers initial, ceux-ci n'ont réalisé qu'un tir cadré et encore un shoot pris du milieu de la patinoire. C'est dire la faiblesse de leur prestation. Le cinquième but chaux-de-Fonnies est tombé dans la période médiane de la part de Eudemark. Le sixième était l'œuvre de Tretnes. Après trois défaites, le HCC a fait plaisir à voir, mais surtout, il s'est mis dans de bonnes dispositions mentales pour recevoir l'esprit plus libéré, l'épouvantail Kloten, mardi à la patinoire des Ménèzes, une affaire à coup sûr plus compliquée.
Une autre rencontre de Swiss League vient de se terminer. Zug Academy a battu Sierre 3-1 et trois autres matchs sont toujours en cours. Langenthal joue contre Kloten, c'est un partout pour le moment. Holten fait également match nul un partout contre les Ticino Rockets et Thurgovie mène 1-0 face à Viège. Et du côté de la National League, Rapperswil a dominé Ajoie 6-3. Et en Liga de volleyball, deux rencontres se disputent également en ce moment. Le NUC reçoit Toggenburg et les Neuchâteloises ont remporté le premier set 25-23. C'est actuellement 24-22 dans le deuxième set. Et Valtra affronte Eschpfeffingen. Les Vallonnières sont menées 21-15 dans le premier set. Fin d'aventure pour Colombier Volley en Coupe de Suisse masculine de volleyball. Les joueurs du littoral ont été défaits 3-0 à domicile par Servette Staronnet cet après-midi lors du cinquième tour. En détail, ils ont perdu 25-17, 26-24 et 25-20. La troisième place provisoire pour Wendy Holdener. Après la première manche de la Coupe du Monde de slalom à Killington, la skieuse suisse pointe à 38 centièmes de l'américaine Michaela Schifrin et à 58 centièmes de la slovaque Petra Vlova qui mène le bal. L'obvaldienne Michelle Gisin pointe au 10e rang à plus d'une seconde et 66 centièmes de Petra Vlova. Une autre slalomeuse suisse sera au départ de la deuxième manche. Camille Rast partira en 18e position et Mélanie Meillard a en revanche été éliminée. La deuxième manche a lieu à 18h45. Chez les messieurs, après la première descente programmée vendredi, c'est au tour du Super G prévu aujourd'hui à Lake Louise d'être annulé. Les chutes de neige et mauvaises précipitations météorologiques expliquent cette décision. En Super League de football, Zurich fait tomber Young Boys. À domicile, les Zurichois l'ont emporté 1-0 et conservent la tête du classement. Deux autres matchs se jouent en ce moment. Le duel entre Lausanne Sport et Servette tourne en faveur des Genevois qui mènent 2-0. Et de son côté, Bâle gagne 3-1 à Lucerne.